La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici, dans ce lieu, en ce matin de Pentecôte. Peut-être que le vent va se mettre à souffler d'un coup. Peut-être qu'un grand fracas nous rappellera la présence de Dieu par des choses extraordinaires qui se produiraient ce matin. Mais en tout cas, nous avons la chance et la joie d'entendre ce matin trois jeunes filles qui vont confesser leur foi devant notre Église en présence de Dieu. Après un parcours d'éducation biblique depuis la petite enfance, elles ont cheminé les unes et les autres, chacune dans les lieux où elles étaient en Église. Elles se sont retrouvées ici à l'Oratoire du Louvre et aujourd'hui, elles se sentent prêtes à dire leur foi, leurs doutes, à dire ce que la parole de Dieu leur apporte dans leur vie. Et nous allons être témoins de ces témoignages. Et je trouve que c'est une chance énorme. Faut pas que je commence comme ça. On se connaît depuis un petit moment maintenant et donc c'est toujours très émouvant. Une des jeunes filles va être baptisée. Ses parents ont choisi d'attendre le moment où elle choisirait elle-même de recevoir le baptême. Et c'est ce qu'elle a fait. Et nous sommes très, très heureux de ça. Nous avons ce matin la joie d'avoir le chœur avec nous, qui est venu chanter pour nous et soutenir le chant des cantiques. Et donc, nous prions déjà deux fois en chantant, mais là, avec le chœur, ce sera trois, quatre fois peut-être. Voilà. Et puis David est à la tribune d'orgue ce matin et nous accompagne dans ce moment où nous recommençons le temps liturgique de l'Église. Vous allez retrouver dans vos psautiers français, juste à l'entrée des psautiers, les livrets du temps de l'Église avec les réponses qui sont liées à ce temps. Je vous invite à entrer dans ce moment et nous allons chanter le premier réponse. Alors David, si tu veux bien, pour que nous puissions nous mettre dans ce temps du culte ensemble et nous rassembler par le chant avec le premier réponse du livret dans les psautiers français. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble. Nous louons Dieu avec le psaume numéro 8 dans la Bible, au chef de chœur sur la guittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et nous chantons ensemble le psaume que nous chantons souvent avec les enfants de l'éducation biblique, le psaume 92, les strophes 1, 2, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir et je vais inviter Kant à venir me rejoindre. La volonté de Jésus-Christ est celle-ci pour son Église. D'après les évangiles, il est écrit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, dit-il, jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à chanter le répond de la volonté de Dieu dans les petits livrets, après cette institution du baptême. Quand est-ce par un acte sincère et libre que tu demandes aujourd'hui le baptême ?
Oui.
Alors, parle en conscience, Quand.
Aujourd'hui, je crois en Dieu, le Créateur du monde et le Père qui m'aime, Il m'a donné la vie, il m'accompagne à chaque instant et ne m'abandonne jamais. Il est là dans mes joies, mes peines, mes choix et mes silences. Il est présent dans la vie par sa paix, son pardon et son souffle d'amour. Je me tourne vers lui quand je suis perdue, quand j'ai peur ou que je doute, mais aussi pour dire merci et reconnaître sa fidélité. Il me relève quand je tombe, il me guide sur mon chemin. Croire en Dieu donne un sens à ma vie et transforme mon regard. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, venu sur terre pour nous révéler l'amour de Dieu. Par ses paroles, ses gestes, sa mort et sa résurrection, il offre le pardon, la vie nouvelle et une espérance qui ne meurt pas. Jésus est mon sauveur, mon frère, mon chemin. Quand je prie, c'est à Dieu que je parle, par Jésus qui intercède pour moi. Je veux suivre son exemple d'amour, de vérité et de justice. Ma foi me pousse à vivre autrement, dans le partage, le pardon et l'honnêteté. Elle me donne l'espérance d'un monde renouvelé et la force d'aimer sans condition. Une histoire qui m'inspire est celle du Fils prodigue. Elle me rappelle que Dieu ne cesse de m'attendre, de m'accueillir et de me pardonner. Je crois que Dieu agit encore aujourd'hui, parfois dans le silence, parfois dans des signes. Ma conscience est un lieu où Dieu me parle doucement. Je veux l'écouter et avancer librement avec lui. Je crois que le baptême est le signe de son alliance et de ma réponse. Je reçois aujourd'hui cette grâce avec foi, joie et espérance.
Vous avez vu, hein? Essayez de faire pareil. Merci à toi. Je vous invite à chanter le répond de la confession de foi. Kant décide d'inviter ses parents à l'entourer pour son baptême. Alors venez par ici peut-être, voilà, parce que, oh, faut pas que je pleure, aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous regarde et qui vous a accompagné et qui m'a accompagné ici, et c'est Agnès, voilà. Alors Agnès, tu vois, on a cheminé avec les jeunes qui sont là et elles se souviennent de toi et tu te souviens d'eux parce que tu m'as écrit hier soir pour me dire à quel point tu pensais à elles. Et donc voilà, on est en communion. Quand je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Quand pour toi aussi cette parole est vraie, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, je crois que vous pouvez applaudir Kant parce qu'elle nous a vraiment donné un témoignage important. Et je vais maintenant inviter... Alors, quand tu peux rester près de tes amis, on va inviter Maë et Joanne à me rejoindre maintenant. Vous aussi, alors vous inquiétez pas, j'ai sûrement la larme facile, mais c'est un jour de joie pour moi, hein, c'est certain. Vous aussi, le jour de votre baptême, vous avez été déclaré enfant de Dieu et vous avez reçu le signe de sa grâce. Aujourd'hui, l'Église vous offre la possibilité de vous engager, comme l'a fait à l'instant Kant, personnellement sur ce chemin. Alors, je vais commencer par poser la question à Maë. Maë, est-ce par une démarche sincère et volontaire que tu confesses ta foi aujourd'hui dans cette Église ?
Oui.
Alors, parle en conscience, Maë. Et là, je vous invite à vous asseoir pour écouter, là aussi, le très beau discours que nous a préparé Maë.
Pour moi, Dieu représente tout ce qu'il y a de bon dans nos vies, toutes les bonnes choses qui nous arrivent, c'est lui qui nous les envoie. Je ne me tourne pas vers lui chaque jour, mais Dieu reste une aide et un soutien dans les moments difficiles, dans les moments décourageants. C'est là qu'il intervient et que je le prie afin de sentir sa présence auprès de moi, ce qui me permet de persévérer et d'atteindre mes objectifs. Non seulement Dieu est présent dans le cœur de chacun, et ensuite on se sent aimé et protégé, quel que soit l'endroit où nous allons et ce que nous faisons. Jésus est également quelqu'un en qui nous pouvons nous confier, car il est le Fils et l'envoyé de Dieu pour nous transmettre sa parole. Lorsque je prie le plus souvent Dieu, car c'est comme si son amour me portait et me montrait le chemin à suivre. Une histoire de la Bible qui m'a touchée et qui m'a donné envie de croire en Dieu est la parabole rapportée dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Cette parabole raconte l'histoire de Lazare, un homme pauvre, et d'un homme riche. Lazare vit au pied de la maison de l'homme riche. Lorsque chacun d'eux meurt, Lazare retrouve Abraham au paradis et l'homme riche va en enfer. Il supplie Abraham de le libérer de cette souffrance, mais ce dernier refuse car Lazare trouve maintenant le bonheur qu'il n'a jamais eu. Cette parabole m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien tant qu'on est encore en vie. Car si on ne prend pas la peine de faire le bien et que nous agissons de manière égoïste, nous regretterons ces actes manqués. Les fruits de la foi sont nombreux mais tous essentiels dans notre vie. L'amour, la paix, l'espérance, l'honnêteté, la justice, l'égalité, l'équité et le partage. Dieu nous encourage à faire des bonnes choses qui sont pleines de bonne volonté et de bienveillance pour son prochain.
Merci. Merci Maë. Alors Maë, c'est le moment de confirmer cet engagement que tes parents ont pris pour toi lors de ton baptême. Et je vais maintenant te dire cette bénédiction que j'ai dite tout à l'heure à Kant. Maë, Dieu renouvelle sur toi sa promesse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, Joanne, est-ce par une démarche sincère et volontaire que tu confesses aujourd'hui ta foi devant cette Église ?
Oui.
Alors, parle en conscience, Joanne.
Tout d'abord, j'ai toujours été baignée dans le christianisme, que ce soit à l'école ou dans ma famille. J'ai vu toutes mes sœurs faire leur confirmation, cela me semblait donc comme une évidence. Pourtant, plus j'ai grandi, plus je me suis questionnée sur ma foi. Finalement, j'ai trouvé dans la religion, plus précisément le protestantisme, le réconfort dont j'avais besoin. Pour moi, Dieu est un moyen de garder espoir en l'être humain et d'être toujours meilleur que la veille. Il m'offre un soutien et un amour inconditionnel sur lequel je peux m'appuyer au même titre que ma famille ou mes amis. Enfin, selon moi, le protestantisme est une grande communauté liée grâce et pour Dieu. C'est comme une deuxième famille sur qui compter, c'est cela qui m'a tout de suite plu et c'est pour cela que je crois en Dieu et en Jésus.
Merci, vous voyez, la dimension amicale de nos églises est extrêmement importante. Je vous invite maintenant à entendre cette bénédiction pour Joanne. Joanne, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu renouvelle sa promesse pour toi. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Frères et sœurs, voici Kant, Joanne et Maë. Elles sont ici chez elles et depuis déjà longtemps et peut-être encore plus longtemps que certains d'entre vous ici. Elles sont dans cette maison depuis des années, certaines aussi au scoutisme et donc elles connaissent bien la maison. Et vous êtes leur famille spirituelle. Vous prierez pour elles. Vous les associerez à l'édification de l'Église. Et oui, maintenant, les filles, vous pouvez servir là où vous voulez servir dans l'Église, vous le savez, parce que en faisant cet acte aujourd'hui, vous montrez le sens que cela a pour vous. Et vous avez montré à quel point vous étiez responsable de votre propre spiritualité. Et voyant cela, nous sommes aussi convaincus que vous pouvez être responsable de choses importantes ici, dans cette église. Donc vous viendrez aider quand vous voudrez. Vous ferez ensemble le service de la parole de Dieu, si vous le souhaitez, ici. Voilà. Aucune contrainte, évidemment, ne vous retiendra dans cette maison, dans cette communauté ou dans la communauté des chrétiens. Et si jamais la vie venait à vous séparer de cette communauté, ici, nous affirmerons toujours que vous pouvez y retrouver votre place. Ce n'est jamais définitif. Dieu recommence sans cesse avec celles et ceux qui ont parfois du mal à certains moments dans leur vie spirituelle. Donc ne désespérez jamais de votre Église et nous autres, que nous ne soyons jamais vecteurs de désespoir pour cette jeunesse qui a besoin de nous. Vous serez ainsi, vous toutes et tous ici, les témoins de cet amour inconditionnel que ces jeunes filles nous ont dont elles nous ont partagé le témoignage aujourd'hui, qu'elles ont mis avec leurs mots, avec leurs réflexions, avec le résultat de tout ce qu'elles ont appris ici, grâce à cette transmission de l'Église et à cette éducation biblique qui a lieu dans ce lieu. Et je voudrais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui œuvrent dans ce sens et qui enseignent aux jeunes, aux tout-petits, aux enfants et aux adolescents dans ce lieu, parce que nous avons une vraie énergie dans cette équipe et nous sommes extrêmement heureux de faire ce service particulier avec la jeunesse ici même. Je vous invite à chanter votre reconnaissance et votre prière pour ces jeunes filles avec le cantique 204 « Seigneur, dirige et sanctifie ». encore une chose que nous faisons à chaque confirmation. Et c'est notre présidente du conseil qui soutient toujours beaucoup avec le conseil l'éducation biblique ici, qui va faire cet acte de remettre les Bibles aux catéchumènes.
Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Juste, je voudrais juste qu'on applaudisse, s'il vous plaît, tu les as cités, les monitrices de l'éducation biblique qui sont là aujourd'hui et qui font un boulot. Elles font avec toi un boulot absolument merveilleux et c'est une vraie joie pour notre Église. Et il y a la fête le 22 juin, mais ça je l'annoncerai aux annonces. Mais je peux l'annoncer maintenant, mais ça me fait plaisir de te voir sourire, donc on peut continuer. Joanne, je commence par toi. Tu as une dédicace de Béatrice et cette Bible, au nom du Conseil presbytéral, nous sommes vraiment ravis de te l'offrir.
C'est rigolo parce que les filles m'ont dit, je leur ai dit, mais quelle Bible vous aimeriez recevoir? Et alors elles m'ont dit, tu sais, les vraies Bibles un peu vintage avec vraiment le style vieux grimoire, quoi. Alors donc j'ai quand même trouvé la tranche dorée, tu vois, vous avez vu?
Puis un zip pour la fermer et tout. Si tu me l'ouvres et tu me dis pas pour qui c'est. Non, je t'en prie. Maë. En plus, c'est dans l'ordre. Maë, au nom du Conseil presbytéral, nous sommes vraiment ravis de t'offrir cette Bible. Et enfin, Kant, ben écoute, alors tu as été baptisé aujourd'hui, tu as fait ta confirmation de baptême le même jour. Il n'y a pas un délai de réflexion?
Non, d'accord. Elle est sûre
d'elle. Nous, au nom du Conseil presbytéral, nous t'offrons cette Bible. Un grand merci à Béatrice aussi d'avoir suivi ses enfants toute l'année et un coucou à Agnès, on en reparlera tout à l'heure.
Voilà, je vous invite à vous asseoir, excusez-moi.
Et ce matin, dans la Bible, nous lirons ce passage du livre des Actes, qui est le suivant du passage habituel où l'Esprit Saint arrive et tous les apôtres se mettent à parler dans des langues diverses et variées. En tout cas, tout le monde les comprend à ce moment-là. Et juste après, Pierre va prendre la parole et va faire un discours devant les Judéens qui se trouvent là à ce moment-là pour la fête de la Pentecôte. Et il leur dit, debout avec les onze, hein, il élève la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens que vous venez d'entendre parler en toutes les langues, ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils parleront en prophètes. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête et ma langue est transportée d'allégresse. Ma chair même reposera dans l'espérance, car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Je vous invite maintenant à chanter le cantique 258, les strophes 1, 2 et 3 dans les louanges et prières. Et nous nous levons. Nous prions ensemble. Éternel, au moment de comprendre ce que tes témoins dans la Bible ont voulu transmettre de leur foi, au moment où nous entendons la foi de trois jeunes filles d'aujourd'hui qui nous donnent leurs paroles, nous te demandons de comprendre, de recevoir ce message qui est dans nos paroles humaines, ton message divin. Éternel, permets que nous puissions entendre ta parole et y être fidèles sans cesse. Amen. Après les langues de feu qui se déposent sur les apôtres, c'est Pierre qui s'enflamme. Il commence un discours au milieu de cette foule hétéroclite de pèlerins originaires de toutes les contrées de la diaspora juive, et il s'adresse particulièrement aux Judéens qu'il accuse d'avoir supprimé le Christ. Mais il assure que c'est dans la préscience de Dieu que cette crucifixion est décidée. Pierre l'assure à ses auditeurs, les apôtres ne sont pas ivres, ils ne sont pas sous l'emprise du vin doux, ils sont sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et invoquant le prophète Joël et le roi David, Pierre éclaire les événements qui le faisait trembler quelques instants avant, enfermé dans la peur avec les autres apôtres dans la chambre haute. Tout cela a un sens, Pierre l'assure. Cette histoire de condamnation et de mort est un signe de résurrection et de vie. Nous avons entendu aujourd'hui les confessions de foi de trois jeunes filles inspirées, elles aussi, par l'Esprit Saint. Mais à aucun moment il ne nous a semblé que l'ivresse les avait saisis. Pourtant, des apôtres polyglottes au discours de Pierre jusqu'aux confessions de foi d'aujourd'hui, c'est bien le même effort d'énonciation de la foi qui se réalise et interpelle les auditeurs, quelle que soit l'époque. Comment dire sa foi ? Comment réussir à rendre compte d'une chose qui nous dépasse et nous excède par sa dimension éternelle et transcendante ? Pierre, lui, se sert des prophètes. Il emprunte les mots du prophète Joël pour dire l'événement qui se déroule dans ce jour de la Pentecôte, fête où l'on se remémore le don de la loi sur le mont Sinaï. Ce jour-là, Moïse avait reçu 10 paroles pour ne pas se perdre, 10 commandements pour vivre et rester en vie. 10 commandements comme des jalons sur la route du peuple marchant dans le désert à la recherche de son identité, de sa liberté, de sa propre vie. En ce jour, commémorant le don d'une loi que Dieu avait fait par amour pour son peuple, Pierre fait lui-même le prophète et il se glisse dans une prophétie passée, celle de Joël, qui dit « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tous, vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions, attention les filles, et vos vieillards auront des rêves. On verra ce soir, les amis. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils parleront en prophètes. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. » Alors les signes sont absolument terribles. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme dans une vision d'Apocalypse, où les éléments se déchaînent, où le sang, la fumée, le feu et les ténèbres s'allient pour annoncer une révélation divine, un accomplissement. Joël parle d'un jour où la conversion au Dieu d'Israël est possible pour tous. C'est le Dieu de Jésus-Christ, celui qui ouvre grand la porte du salut. Car cette porte s'ouvre pour celles et ceux qui jusque-là n'avaient pas décidé de suivre le chemin offert par Dieu ou parfois avaient été refusés, avait été chassé par les communautés de croyants qui ne voulaient pas d'eux. On retrouve dans la vision de Joël les phénomènes traditionnels associés aux jours de dévoilement, aux apocalypses. La lune rousse, c'est ça la lune de sang. L'éclipse du soleil, les ténèbres qui viennent à la place du jour. Et la foudre qui tombe du ciel, le feu qui parfois ravageait les récoltes. Le livre de Joël, qui est un petit livre, un petit prophète de la Bible, non pas par l'importance de son message, mais à cause de la taille du livre, très petit, ce livre est un récit de catastrophe agricole, dans lequel les criquets s'abattent sur tout le pays et ravagent tout sur leur passage. Comme les criquets de l'Apocalypse de Jean, les ravageurs du livre de Joël sont présentés comme étrangement le signe de la venue du jour du Seigneur. La famine sera si terrible qu'il sera temps de penser un autre monde, une autre époque, et de les recréer en accueillant les signes des temps. D'où l'importance de la transmission aux générations qui suivent l'événement. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Tout est sans dessus-dessous. Les jeunes gens font ce que les vieux prophètes font traditionnellement, et les vieillards rêvent comme des enfants. C'est le temps lui-même qui est perturbé, c'est le temps qui n'a plus les mêmes propriétés. Le livre de Joël est un livre de décréation et de recréation, si vous me permettez l'expression. Quand tout est dévasté, il faut tout recréer, autrement et avec un autre esprit, en tenant compte des enseignements que la catastrophe a fournis. Nous sommes témoins de cela chaque jour, dans notre monde, dans notre pays. Des gens d'un jour à l'autre, en quelques instants parfois, perdent tout et il faut qu'ils réinventent leur vie. Il faut aussi que chacun se demande ce qu'il fera demain pour prévoir ces fameuses catastrophes et vivre autrement peut-être la solidarité entre les humains. Pierre aussi a vécu une catastrophe. Son ami et maître, Jésus de Nazareth, a été crucifié. Et tout le beau chemin de conversion que les apôtres étaient en train de réaliser s'en est trouvé dévasté, annihilé en quelques heures. Pierre a le choix entre se cacher dans les ruines de son rêve de libération et transformer ce moment en une occasion de commencer quelque chose de nouveau. Avec ce discours, il choisit d'entrer dans un autre temps et il s'élance à la suite de son maître, dans un élan apocalyptique, vers une nouvelle foi dans laquelle les liens de la mort sont vaincus par la foi en un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Comme les Hébreux qui, s'engageant vers la terre promise, craignaient ce que le voyage impliquait, Pierre vit sa propre libération et choisit d'avancer, avec Dieu constamment devant lui, comme le dit le psaume, comme la nuée précédait le peuple en marche vers lui-même. Pierre convoque alors les paroles du psaume 16 de David et raconte comment Dieu ne laisse pas ce qu'il invoque aux mains de la mort. Pierre redit sa confession de foi en un Dieu de la vie au-delà de la mort, de la vie plus forte que la mort, de la vie plus forte que tout ce qui pourrait nous décourager. Vos fils et vos filles parleront en prophètes, prévient le prophète Joël, pour identifier le jour du Seigneur, ce jour de bascule où il est possible de choisir la vie contre la mort et la fatalité. Aujourd'hui, nous avons entendu trois prophétesses, et oui, vous avez annoncé la parole de Dieu, qui sont nos enfants, nos filles d'aujourd'hui, qui vivent dans ce monde et se tournent vers Dieu, à l'exemple de Jésus, pour trouver le soutien et l'espoir dont elles ont besoin pour créer leur propre vie avec toutes celles et ceux qui les entourent, mais aussi pour créer notre monde d'aujourd'hui et de demain. Le langage apocalyptique de Joël que Pierre emploie pour émettre un jugement sur ceux qui ont crucifié Jésus ou sur ceux qu'il appelle les sans-loi a de quoi rebuter à la première lecture, j'en conviens. Mais comment ne pas être excessif quand les événements sont eux-mêmes insupportables? Il faut imaginer dans quel état d'esprit est cet apôtre. Pierre transforme sa peine et sa colère d'avoir vu son ami mourir dans une atmosphère d'intense iniquité en une volonté de vivre autre chose et de faire voler en éclats les règles du passé qui ont servi à condamner Jésus. Comment nos fils et nos filles prophétiseront aujourd'hui sur ce monde qui semble attiré par le malheur de la guerre, qui semble ne retenir aucune des leçons des dévastations écologiques qui sont constamment devant nous et qui ne provoquent toujours pas de prise de conscience massive qui permettrait de commencer vraiment une recréation? Les apocalypses et les psaumes ne servent pas à faire croire à la puissance incroyable de Dieu et à son jugement dernier sur nos vies, non. Si nous les lisons littéralement, alors nous perdons de vue de ce qu'elles sont venues annoncer. Les paroles apocalyptiques que nous retrouvons dans la bouche de Pierre en ce jour de Pentecôte sont des paroles d'un profond espoir dans une autre vie possible. Elles créent un point de bascule autour duquel le sens de nos existences se construit, s'articule et dit notre vocation d'humain sur cette terre. Que sommes-nous venus faire ici? Quel est le sens de notre existence? Est-ce qu'il y a un Dieu qui est avec nous dans cette aventure? Et si oui, alors, qu'est-ce que cela change vraiment pour nous? Comment nous comporter avec lui et avec ceux qu'il met sur notre route? Sommes-nous venus sur cette terre pour la coloniser, la consommer, la laisser en ruine après notre passage? Sommes-nous comme ces criquets du livre de Joël qui mangent les récoltes et s'en vont plus loin dévaster d'autres champs, d'autres paysages, d'autres créations humaines et finir leur vie sans avoir rien fait d'autre que consommer ce qu'ils trouvaient sur leur passage? Aujourd'hui, la génération des jeunes filles qui sont là a besoin de savoir que nous sommes prêts à réformer nos agissements, à réfléchir au sens de nos actions, à tendre vers la recréation plutôt que vers la destruction. Nous avons consommé, nous avons pollué, nous avons détruit, comme sans doute de nombreuses générations avant nous, j'en conviens. Et tout cela en croyant que c'était le prix à payer pour le progrès, pour progresser, oui. Aujourd'hui, nous constatons d'énormes progrès dans de nombreux secteurs de notre société, et c'est heureux. Mais ces progrès sont constamment compromis par des soifs de profit à court terme et qui déclenchent des destructions et des violences qu'elles font vivre à nos contemporains sur notre terre. Il faut de saintes colères, comme celle de Pierre devant les Judéens, comme celle du prophète Joël devant son peuple, pour que le point de bascule soit atteint dans nos têtes et nos cœurs. Une colère constructive qui refuse la fatalité et qui prend en main un changement salutaire. Nous avons le courage de cette colère, vraiment? L'avons-nous? D'autres colères moins saintes, celles-ci, réapparaissent dans notre société et font émerger des pensées violentes et je dirais même fascistes qu'il ne faut pas négliger. Et c'est notre façon d'y faire face et d'assumer nos responsabilités qui fera toute la différence. Ne les laissons pas gagner du terrain dans les consciences par paresse ou par résignation. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Nous autres vieillards, par rapport à ces trois jeunes filles, installées dans cette vie depuis plus longtemps, nous sommes responsables de nos rêves, des rêves qui porteront les espoirs de nos fils et de nos filles. Si nous ne rêvons pas avec eux, ce sont eux qui ne rêveront pas du tout. Rêvons demain avec force et courage. Portons les changements qui portent en eux la vie. Dans tous les lieux où nous pouvons décider, changeons nos comportements pour que nos enfants puissent être prophètes de la vie contre la mort, prophètes de la recréation contre la destruction, prophètes du Dieu de Jésus-Christ contre les idoles qui nous trompent sur notre véritable vocation humaine. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous tous. Amen.
Je vais demander à notre présidente de venir me rejoindre pour les annonces avant d'entrer dans la liturgie de la scène. Merci Aurore.
Je m'attendais à un répond, excuse-moi. Alors du coup, je fais l'annonce, je préviens les conseillers que j'aurai besoin d'aide tout à l'heure pour l'offrande. J'étais partie leur dire. Grand merci à toi, Béatrice. Ça va, tu pleures plus parce que tu vas bientôt repleurer. Tu vas bientôt repleurer. Quelques annonces pour aujourd'hui déjà. Donc tout d'abord, grand merci au chœur d'être parmi nous. C'est avec joie et David Cassan à l'orgue.
Qui remplace Alexandre. Pardon, votre prénom. Et c'est Valentine qui remplace Alexandre pour conduire le chœur aujourd'hui. Et merci à Valentine d'être là.
Et le chœur qui fera son concert le 28 juin, ici même. Donc ne l'oubliez pas non plus. Juste après, nous allons servir la scène. Donc tu as dit aux trois jeunes prophètes que vous allez bientôt aider à servir l'Église.
Prophétesse. Non, faut féminiser.
Si vous désiriez venir nous aider, donc tout à l'heure, elles nous aideront à partager la scène ensemble. On va tous se mettre en cercle. Et pour la première fois, elles vont communier avec nous, mais également partager la scène avec nous et nous aider à la partager. Donc, grand merci d'avance. Lundi également, sachez qu'il y a cours de dessin. C'est lundi de Pentecôte, mais il y a cours de dessin. J'ai eu Anne Jenkins qui m'a dit qu'elle confirmait son cours de dessin. Quelques petites annonces concernant les pasteurs maintenant. Tu as parlé d'Agnès. Alors Agnès, en effet, sachez qu'on a toutes les trois, avec Béatrice, un WhatsApp. Puis dès qu'on a des trucs sympas à s'annoncer, ou on a un gros chagrin, on s'envoie un petit mot. Et alors, vous vous souvenez, l'année dernière, on a fait un superbe cadeau à Agnès, grâce à vous, qui voulait partir avec son amoureux à Venise. Et donc, elle est partie à Venise, et alors je vous lis un petit mot de remerciement qu'elle m'a envoyé en carte postale, mais je n'ai pas reçu la carte postale. Donc, elle me l'a envoyé hier par email à 0h03. Remerciements pour le voyage à Venise. Très chers amis et amis, c'est avec une joie immense et une douce reconnaissance que nous étions à Venise. Nous mesurons avec respect le magnifique cadeau que vous nous avez offert et qui nous comble. Nous pensions à chacun et chacune, ou chacune et chacun, elle a commencé par le féminin, de vous pendant ce voyage, en particulier lorsque nous contemplions Venise au bord du Grand Canal. Recevez chacun, chacune, alors là c'est dans l'autre sens, un profond merci pour votre générosité, symbole de l'amitié fraternelle tissée à l'oratoire ces dernières années. Et maintenant, il est temps de regarder devant Agnès et Richard. Alors c'est sûr que ça nous fait toujours chaud au cœur. Donc voilà, sachez qu'Agnès, grâce à vous, est partie à Venise avec son amoureux. Elle devait aussi faire un stage de clown. Je ne sais pas si elle l'a encore fait, mais sachez qu'elle sera avec nous dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, nous avons notre Assemblée Générale. Nous avons aussi le père Trochéry qui part de Saint-Eustache. Donc Agnès ira représenter à l'oratoire à Saint-Eustache, viendra après pour nous rejoindre pour notre Assemblée Générale, parce que nous-mêmes ici, nous avons notre Assemblée Générale. Et c'est aussi le pasteur Pernaud, que certains d'entre vous ont connu. Donc Marc Pernaud vient dimanche prochain prêcher ici même. Ça nous fait un immense plaisir de voir Marc accepter de revenir en chair à l'Oratoire du Louvre. Donc la semaine prochaine, dimanche prochain, nous aurons Béatrice, Marc Pernaud et également Agnès Adeline Schaeffer qui reviendra pour notre Assemblée Générale.
Tout marche par trois, vous avez vu les filles. Hein. Donc faites tout de suite votre WhatsApp, là, vous le gardez et vous continuez à vous envoyer des petits mots comme ça.
Voilà, donc sachez que Béatrice va continuer à pleurer dimanche prochain, c'est sûr, surtout qu'il y a une transition. Donc moi, je vais personnellement partir avec mon vice-président. On a deux nouveaux candidats qui viennent. C'est important que la transition continue, qu'on ne s'assied pas sur nos chaises pendant des années et qu'on partage aussi la tâche. Donc d'ailleurs, les jeunes, hein, vous verrez tout à l'heure en termes de service de la scène, en plus des trois prophétesses, nous aurons également trois jeunes, dont deux conseillers particulièrement jeunes, qui partageront la scène avec vous. Et c'est vraiment important ici à l'Oratoire du Louvre de rajeunir. Aujourd'hui, toutes les deux, on est les vieillards. Voilà, vous avez compris, on est quelques-uns aussi, mais on va faire de très beaux rêves cette nuit, c'est ce qui est important. Un autre pasteur que nous aimerions vraiment, que nous avons à cœur d'honorer et d'insister pour son action, c'est le pasteur Vergara. qui a été parmi nous pendant plus de 30 ans, avec son épouse, qui a mené une action de sauvetage de 63 enfants juifs en 1943. Nous en avons beaucoup parlé avec la ville de Paris, avec nos élus. Nous avons la chance d'avoir été entendus. Et ce vendredi 13 juin, il va se passer une chose extraordinaire. Je crois d'ailleurs que c'est la première... Enfin, on n'arrive pas à avoir, être sûr de l'information, mais c'est la première place de Paris qui va porter un nom de pasteur. Donc nous avons l'inauguration de la place Paul et Marcel Vargarin ce vendredi 13 juin à 14h30. Si vous êtes libre, inscrivez-vous, s'il vous plaît, c'est sur le site internet. C'est quand même vraiment très important de se souvenir. Il y a des moments d'apocalypse, mais il y a aussi des gestes de foi qui sont fondamentaux, et c'est ce que nous avons travaillé depuis 5 ans. Voilà, pour quelques annonces, et tu l'as dit tout à l'heure, le 22 juin, on retrouve à nouveau les enfants et les monitrices de l'éducation biblique pour un nouveau spectacle et fête de fin d'année.
Alors, spectacle peut-être pas, mais en tout cas une très belle animation autour de tout ce qu'on a fait cette année et une surprise pour les enfants qu'on est en train de préparer avec Sidonie qui est là-bas au fond et qui fête aujourd'hui son premier anniversaire de baptême. Voilà, bravo Sidonie.
Et pour l'Assemblée Générale dimanche prochain, même si vous n'êtes pas membre de notre association, vous êtes tous les bienvenus et venez parce qu'il va falloir soutenir Béatrice. Pour à nouveau une transition, mais elle arrive au bout. Un grand merci encore à toi. Et puis, si vous voulez voir le dossier de convocation, il est sur le site internet, puisque nous sommes en totale transparence sur ce que nous faisons, sur nos comptes. Donc, vous pouvez le trouver sur le site internet et également des exemplaires papier dans la première chapelle. C'est le moment de l'offrande. J'ai parlé de transparence, d'enfants. Sachez que l'éducation biblique est entièrement gratuite à l'Oratoire du Louvre, comme toutes nos activités. Nous avons le don joyeux, c'est important d'avoir le don joyeux. Offrez-vous un don, dit un de nos collègues d'une autre paroisse. Offrez-vous un don, s'il vous plaît, et nous en serons également très joyeux. Merci à vous et bon dimanche.
Nous louons Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Éternel, nous te remettons les 3 jeunes filles qui ont dit leur foi en toi avec nous aujourd'hui dans cette communauté. Nous te remettons leur parcours, nous te remettons tous leurs rêves. Nous te demandons d'être avec elles sans cesse, comme tu es avec nous, et qu'elles puissent sentir chaque jour ta présence bienveillante avec elles. Éternel, nous te remettons toutes celles et ceux qui semblent vivre dans les horreurs d'une apocalypse, dans les fracas de la guerre, dans la misère de la famine, sous le joug de dictatures iniques, pour toutes celles et ceux qui vivent ainsi, tous les enfants qui sont avec eux et qui vivent ainsi, permets que ce ne soit pas le dernier mot de leur vie, mais qu'ils puissent connaître le jour du Seigneur, le véritable jour de grâce, le jour de salut, celui où la vie est à nouveau possible, complètement et entièrement. Éternel, nous te demandons de nous donner le courage de nous engager pour que notre terre, au moment même où se tient le sommet des océans, puisse vivre de nouveau avec le respect et le soin que nous devrions à cette terre qui nous habite. Nous sommes habités par ce monde que nous appelons nature et nous voudrions être capables de rendre ce monde habitable pour toutes les espèces qui y vivent. Permets, Seigneur, que nous soyons respectueux de ce lieu dont les Écritures disent que tu nous l'as confié et que nous devons en prendre soin. Éternel, nous te demandons cette constance pour pouvoir reconstruire. Ensemble, nous te disons cette prière que Jésus a apprise à ses apôtres, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous êtes toutes et tous invités au repas du Seigneur. C'est le Christ lui-même qui nous associe à sa table. C'est lui qui nous invite et personne ne doit en être exclu. Alors, formez un cercle autour de cette table et prenons le repas du salut ensemble. Je vous invite donc à former un cercle sur, tout autour du temple. Avec le chœur par ici qui chantera à toi la gloire avec brio, j'en suis sûre. Je vous invite à vous décaler par ici pour permettre à tout le monde de se mettre les uns à côté des autres. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous communions ensemble au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à chanter ensemble « À toi la gloire » avec David qui nous accompagne. Merci à vous toutes et tous, merci à vous pour ce que vous nous avez fait vivre aujourd'hui. Nous allons maintenant aller porter cette bonne nouvelle à l'extérieur de ce temple, dire à celles et ceux que nous côtoyons tous les jours dans nos vies ailleurs que nous avons reçu une parole de grâce et que cette parole de grâce se partage. Et pour le partage, vous aurez tout à l'heure le verre de l'amitié qui a été préparé par une des familles des confirmants. Et nous avons donc la joie de pouvoir vous offrir ce moment grâce à cette famille qui a voulu partager avec toute la communauté ce moment de convivialité. Que ce partage, cette amitié, irradie dans notre monde qui en a tellement besoin. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce et qui aime chacun, vous aime et vous fait grâce. Amen. Voilà, alors toutes et tous à la sacristie pour participer à ce verre de l'amitié. Bon dimanche à toutes et à tous et merci au musicien David qui nous a accompagnés et à Valentine. Merci beaucoup.